Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Seigneur t'a dit dans Jean 8, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre, Seigneur. » Libre de quoi? Libre des pensées de ce monde, les pensées de la chair, les pensées du malin. Les pensées qui sont à l'origine de la chute des hommes. Les pensées qui sont à l'origine de notre chute, Seigneur. Tu dis avant la chute, le cœur s'élève dans les Proverbes. Alors, Seigneur, aide-nous à apprendre au travers l'Épître aux Galates comment ces gens-là s'étaient détournés, s'étaient arrêtés, étaient troublés et avaient cessé d'obéir à Dieu. Tout cela parce qu'ils avaient accepté des pensées qui ne venaient pas de toi. Aide-nous, Seigneur, à être enracinés dans tes pensées, dans ta grâce, pour que, Seigneur, on puisse nous être les premiers à en goûter les fruits, Seigneur Dieu, mais aussi que tu puisses être glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. OK, donc c'est vraiment un livre qui est super, le livre de Galates. Ça fait longtemps que je veux l'étudier. Je l'avais déjà étudié pour commencer à préparer une série. Voici les œuvres dans lesquelles je vais me tenir, ça. Ça va être le premier. Juste lire le texte en français, on n'a pas besoin de bien d'aller lire le grec pour comprendre bien des affaires. Ensuite, il y a le Kenneth West, qui est l'étude grecque du Nouveau Testament. Mot par mot, je vais l'étudier, bien sûr. Mais on avance chapitre par chapitre ou verset par verset, on n'avance pas mot par mot. Là, fait que, sinon, on aurait pour un siècle à vous enseigner. Sinon, on a Galates de Alan Cole. Bien sûr, un classique, La grâce de Louis Sperry Schaeffer, avec un C, parce qu'il y en a un avec un S aussi. Puis, je vais aussi aller bouquiner un peu dans Swindle, Charles Swindle, Éveil à la grâce. J'ai aussi un livre que j'avais au collège biblique, là, il y a une vingtaine d'années. Ça s'appelle Jensen's Survey of the New Testament. C'est des très, très bons écrits qui m'aident beaucoup à comprendre le livre, l'arrière-plan, l'histoire. Ça devrait être bien intéressant, ce qu'on va faire ensemble. Je ne sais pas combien de messages que je vais faire sur Galates, mais ça devrait être quelque chose qui va progresser quand même assez rapidement. Mais surtout, que j'espère que ça va être une bénédiction pour vous. OK. Donc, avant de lire le livre de Galates, ce qu'on va faire ensemble, je vais vous donner un petit peu un arrière-plan du livre. Paul a écrit ça à peu près 16 ans après que Jésus-Christ soit mort et ressuscité. Paul s'est converti dans la même année que le Seigneur a été crucifié. Il a à peu près le même âge que Jésus-Christ. Il a été enseigné au pied de Gamaliel, celui qui avait dit « Vaudrait mieux qu'il y en ait un qui meure pour que tout le monde vive. » Fait qu'il avait comme plaidé pour la crucifixion de Jésus-Christ. Mais il ne savait pas à ce moment-là. Mais il avait vraiment prophétisé. Donc, c'était un homme sage du temps de Jésus. Son professeur, donc, connaissait Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Galates a comme but? Donc, c'est écrit en 48, 49, mais probablement 48. C'est quoi son but? Puis, c'est le deuxième écrit du Nouveau Testament. Donc, quand vous divisez votre Bible, Nouveau et Ancien, vous trouvez le livre de Galates, même s'il n'est pas tout à fait au début. C'est le deuxième livre qui est écrit. Jacques, c'est le premier livre qui est écrit. Puis Jacques, le frère du Seigneur Jésus, a écrit un livre qui est quasiment à l'opposé de Galates. Je veux dire, Jacques, il dit, arrête-moi ça, là, qu'on est sauvé par la foi, on est sauvé par les œuvres. Puis là, bien, il explique, tu sais, que les œuvres sont super importantes. Puis Paul a dit, oublie ça, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, tu sais. Puis on a l'air quasiment d'être contradictoire, tu sais.
Puis plus quand tu regardes comme il faut les deux livres, Jacques, lui, qu'est-ce qu'il adressait? Il adressait, c'est l'antinomie. L'antinomie, c'était quoi? Anti, contre, nomie, norme, contre les normes. Donc, il y a des gens qui, après avoir accepté le Seigneur, ont dit, hey, Jésus est mort pour nos péchés, on n'a plus besoin de suivre aucune norme. On est des gens sans loi. On est des gens qui font ce qu'on veut parce que, peu importe, Christ est mort pour nous. Ça a créé des fausses doctrines. Déjà, dans la jeune Église, qui n'avait même pas une quinzaine d'années, les gens ils vivaient à peu près n'importe comment parce qu'ils disaient, oh, pas grave, Jésus est mort pour nous. Fait que Jacques disait, hey, arrête-moi ça de dire que tu as la foi et que tu n'as pas les œuvres qui viennent avec. Fait que Jacques, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous justifier la foi par les œuvres. Tandis que Paul, lui, il va attaquer le galatianisme. C'est quoi? C'était tellement gros comme erreur dans l'Église de Galate qu'on lui a donné un nom, on appelle ça le galatianisme. C'est des gens de l'Asie mineure, de Galate. Ces gens-là avaient fini par croire, « Ah oui, on est sauvés par la foi, mais aide-toi puis le ciel t'aidera. Tu sais. Il faut quand même être des bonnes personnes. » Ils ont acheté ce mensonge-là, puis ils ont fini par penser qu'ils étaient sauvés ou ils demeuraient sauvés à cause de leurs bonnes œuvres. Et là, ça, c'est l'erreur du galatianisme, on pourrait dire. Donc, Jacques, il vient nous montrer la force de la bonne nouvelle, c'est qu'on peut, on est sauvé par la foi, mais cette foi-là est tellement puissante qu'elle nous fait faire des bonnes œuvres, elle nous fait vivre une vie qui glorifie Dieu. Tandis que Galates, c'est la libération par l'Évangile, c'est que c'est par la foi seulement en Jésus-Christ qu'on est rendu libre une fois pour toutes. Donc, c'est deux affaires bien différentes. Alors, les deux écrits, il y en a un qui dit, hey, la foi, là, c'est crucial. L'autre, il dit, oui, mais les œuvres, c'est crucial. Puis les deux ensemble nous font déjà dans la jeune Église mettre un équilibre qui est tellement important qu'on comprenne en tant que croyant. Donc, nous, qui sommes des Québécois issus du catholicisme, c'est une épître fétiche. Luther, qui avait cloué ses 95 thèses sur la porte de son Église, pourquoi il ne fallait pas prier pour les morts, puis que Dieu ne nous vendait pas sa grâce, il nous la donnait par la foi en Jésus-Christ. Après qu'il ait cloué ça, hey, lui, il a fallu qu'il se réfugie là, en Angleterre pour le prix de sa vie, là, parce que l'Église catholique n'a pas accepté qu'il fasse ça en tant que prêtre catholique. Tu sais. Fait que lui, il disait, ça, c'est mon épître préférée. C'est mon épître favorite. Il dit, je me suis marié avec. Il l'appelait son épouse. Galate, c'était sa femme. Tandis que Jacques, il disait, ça, c'est un épître de paille. Il disait, c'est des hommes, cette affaire-là. Tu sais. Fait que Luther, c'est ce qu'il pensait de Jacques. Bon. Si vous avez grandi dans le catholicisme, on vous avait appris qu'il fallait mériter notre ciel, qu'il fallait qu'on le gagne. Et normalement, cette série sur Galates, s'il reste des séquelles de cette croyance-là, eh bien, ça va venir vous guérir, ça va venir vous rendre encore plus libre. Si vous venez d'une église qui était légaliste, qui mettait toutes sortes de standards sur les gens pour qu'on soit des bons chrétiens, ça va aussi vous faire un grand bien. Donc, Galates, on pourrait dire, c'est la libération du légalisme de devoir performer pour être accepté. Il y a un auteur qui l'a appelé la grande charte de l'émancipation chrétienne, la charte des droits et libertés du croyant, si on pourrait dire. Paul, c'est l'auteur de ce livre-là. Au chapitre 1, verset 1, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Au chapitre 6, verset 1, il dit « Voyez de quelles grandes lettres je vous écris, parce que probablement qu'il y avait une maladie aux yeux, puis il était presque aveugle. » Et puis, donc, il écrit avec des grandes lettres, puis il dit « Regardez de la façon que je vous écris, là, vous voyez bien que c'est écrit de ma propre main. » Donc, il dit « Je l'ai écrit de ma propre main. » On va lire les versets 1 au verset 5 et on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, c'est ce qu'on va regarder aussi aujourd'hui. Puis, on va essayer de voir, bon, Paul, il écrit avec d'autres personnes, il écrit à qui? On va essayer de se placer dans le contexte. Je vais vous amener en géographie un petit peu. On va se promener sur la carte. On va faire le premier voyage missionnaire de Paul, parce que c'est là que Paul a rencontré pour la première fois ces gens-là. Dans quel contexte il les a rencontrés? Qu'est-ce qu'ils ont vécu ensemble? Comment ils sont devenus solidaires ensemble? Puis ça va nous aider à comprendre un petit peu quand Paul il dit « Avez-vous tout souffert ça pour rien? » Avez-vous tout souffert ça pour rien? Ça va nous donner vraiment un bon arrière-plan, une toile de fond pour comprendre qu'est-ce que Paul dit aux Galates. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset-là? On voit dans cette salutation-là, généralement, on voit que Paul établit son ministère. Paul, apôtre, non de la part des hommes, mais de Jésus-Christ ou de Dieu. Hein? Donc, il établit son ministère, puis il se réfugie déjà dans les deux, trois premiers versets, dans l'œuvre tout accomplie de Jésus-Christ, en disant « Il nous a arrachés de ce présent siècle mauvais. Hein? Il nous a complètement arrachés, il nous a rendus libres. C'est déjà fait, c'est déjà tout accompli. » Jésus, sur la croix, a dit « Tout est accompli. Hein? » Et le mot, c'est « tétélestai », ça veut dire la dette que les hommes avaient envers Dieu, éclairée. Donc, en Jésus-Christ, Paul, il dit « Il part de son épître en disant, « Je suis un apôtre. Jésus a tout fait pour qu'on soit rendu libre. » OK? Et il va déjà mettre son front solide, puis il va s'opposer à des choses. Déjà, dès les premiers versets, on sent que c'est une atmosphère de confrontation. Il va dire qu'à un moment donné, ceux qui veulent que vous vous castrez, que vous vous circoncisez, bien, qu'ils se castrent eux-mêmes. C'est-à-dire, enlève pas juste une partie de la peau qui coupe tout. T'sais. Il est très. C'est son premier écrit. Il est confiant, mais il est confus. Il est confiant dans le message qu'il a reçu, mais il est confus à propos des Galates. Il dit, « Je suis confus à votre sujet. J'aimerais changer de langage. J'aimerais le dire d'une façon douce, mais il faut que je vous brasse la cage. » Fait que c'est une des seules lettres que quand Paul y écrit, il ne dit pas je vous loue pour votre amour ou votre foi ou votre espérance. Il dit je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé. Direct en partant, il commence avec comme quelque chose qui est comme un petit peu plus punché. Donc, on devrait s'attendre dans un épître comme ça à ce que le chrétien qui s'est égaré se fasse brasser à la cage et dire hey, non, c'est pas. C'est mieux que ça. Toi, tu essaies de plaire à Dieu par tes œuvres. Hey, arrête là. Réveille-toi. La grâce de Dieu, tu es en train de déchoir de la grâce de Dieu. C'est encore mieux que ça. Christ a tout accompli pour toi. Donc, c'est une réprimande genre qui fait du bien. Parce que ça nous ramène à dire, hey, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de Christ et de ce que lui, il a fait. Son front de résistance contre les judaïseurs se montre dès le début. Les judaïseurs, je vais en parler un peu plus tard, c'est qui ça? C'est des personnes qui ont perdu ou n'ont jamais reçu la grâce de Dieu, n'ont jamais compris le message de la grâce, et ça se manifeste par deux choses. Fausse doctrine à propos de la grâce de Dieu et attaque des autorités spirituelles pour jeter un discrédit sur l'apôtre Paul. Donc, Paul commence. Paul, apôtre. Vous avez ça au verset 1. Paul, apôtre. Un apôtre, le mot apôtre veut dire littéralement de envoyé ou envoyé de la part de. Okay? C'est quelqu'un qui est envoyé comme si c'était l'autre qui venait. L'emphase n'est pas mise sur le message qu'il va transporter, mais sur qui l'a envoyé et quand on l'écoute, c'est qui qu'on écoute. Quand on écoute l'apôtre Paul, Galate, à Paul, il dit, écoutez, quand vous m'écoutez, vous écoutez celui qui m'a envoyé. Donc, Paul affermit son autorité. Il se défend. Mais, Jean-Sébastien, ce n'est pas de l'insécurité, ça, que de se défendre soi-même. En fait, Paul défend l'autorité qu'il a reçue pour les autres. Il ne la défend pas pour lui-même ou sa petite réputation, parce qu'il y a une limite, à un moment donné, à se défendre soi-même. Tu sais, quand quelqu'un est toujours en train de se défendre lui-même, « Hey, je t'ai envoyé par Dieu, hein, je suis l'autorité du Seigneur pour vous. » Il y a une limite, parce qu'à un moment donné, c'est comme, il est-tu en train d'essayer de sauver sa réputation ou il est en train de sauver ceux qui l'écoutent? Et dans le cas de l'apôtre Paul, ici, il va le faire dans 2 Corinthiens, mais il va le faire aussi dans Galates. Parce que vous allez voir, on va le suivre dans son voyage, puis on va voir les rapaces qu'il suit tout au long. Puis quand il est parti, c'est là qu'il en profite. Puis on va voir que... plus ça change, plus c'est pareil. On a besoin d'avoir du discernement en tant que chrétien. Envoyé de la part de Dieu. Donc, l'emphase est mise sur le fait que Paul, quand il parlait, puis ça, il n'y a personne qui peut dire ça aujourd'hui, « Hey, moi, je suis un envoyé de Dieu, tu sais. » Mais les apôtres, il y en avait quelques-uns, il fallait qu'ils soient témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Ces gens-là étaient en train d'établir le Nouveau Testament. D'ailleurs, Galates, c'est une lettre de la part de Dieu livrée par Paul. 27 écrits du Nouveau Testament, 19 sont écrits par l'apôtre Paul. Paul, quand il écrit, Dieu lui a donné ce message-là. Maintenant, dans Jean, au chapitre 20 ou 21, c'est écrit, dans l'Apocalypse 20 ou 21, ou dans ce coin-là, c'est écrit, celui qui ajoute à ces paroles-là, bien, qu'il soit maudit. Donc, personne, il n'y a pas un pasteur, un évangéliste ou un homme de Dieu qui va dire, il faut que tu m'écoutes, c'est Dieu qui parle au travers de moi. Personne ne peut revendiquer cette autorité-là. Et s'il le ferait, il serait vraiment dans les patates. Mais Paul, ici, il est envoyé par Christ et il a l'autorité de Christ et c'est Christ qui appuie son mandat. Il dit non de la part des hommes, déjà. Déjà, il rentre et il dit, garde, ce n'est pas les hommes qui m'ont envoyé, ce n'est pas eux autres qui m'ont choisi. Paul va dire au chapitre 2, et Stéphane va nous lire ça dans quelques instants, ça ne sera pas long, qui a été choisi dès le sein de sa mère. Dieu a dit, moi, ce gars-là, je le veux. Puis à un moment donné, il est arrivé des circonstances dans sa vie. Paul a répondu positivement à ces circonstances-là. Puis ça l'est mis à part pour être l'apôtre des non-juifs. Et donc, il dit, non de la part des hommes. Et le non vient mettre déjà cette confrontation-là. Le but de Paul, un des buts de Paul, je vais en dire quatre aujourd'hui. Si vous les prenez en note, puis vous relisez Galates, ça va vous aider à comprendre un petit peu plus votre épître. Donc, un des buts de Paul, quand il écrit Galates, c'est de défendre son apostolat. Non pour lui, mais pour ceux qui l'écoutent. Il est celui qui leur a donné, et tantôt vous allez voir, on va le suivre dans son voyage, c'est par Paul que les gens de Galatie ont entendu l'Évangile pour la première fois. Il est comme l'évangéliste, puis il a repassé plus tard pour les affirmer. Il est aussi leur pasteur. Il est aussi celui qui les a comme fait faire leur premier pas, qui a fait d'eux des disciples. Il leur a donné le message de la part de Dieu. Et ces gens-là, à Galates, ils ne le voient plus comme le messager qui leur a été envoyé. Ils ne le voient plus comme celui qui peut leur montrer la grâce de Dieu. Ils ont reçu un autre message. Puis il y a quelqu'un qui a dit, écoute, c'est pas le message. Viens, viens ici. Je vais t'expliquer c'est quoi le vrai message. Puis là, ces gens-là, ils ont fait leurs besoins dans la tête des Galatiens. Et Paul va dire au chapitre 4, « Où est l'expression de votre amour? Avant, vous vouliez vous arracher les yeux pour me les donner, puis là, je suis devenu votre ennemi parce que quoi? Parce que je continue à prêcher le même message qu'il y a 5 ans, 6 ans, quand il écrit la lettre. Qu'est-ce qui s'est passé? » Et donc, ils se sont éloignés aussi d'écouter la parole avec foi parce que ce qui plaît à Dieu, puis une vie remplie du Saint-Esprit, c'est une vie qui est remplie de l'Écriture par laquelle le Saint-Esprit peut travailler. On leur a dit, mets ça de côté, c'est pas ça qui plaît à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu, c'est pas une écoute dans la foi de la parole de Dieu puis d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de faire la loi de Moïse. C'est d'être un bon chrétien. Et là, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, les Galates? Ils se sont détournés d'arrêter d'écouter la parole avec foi, puis ils ont commencé à se mettre sur un programme de faire, pas mettre du lait dans une assiette avec du veau. Ils ont commencé à faire toutes sortes de lois comme ça, des cérémonies. Puis ils se sont éloignés de l'écoute de la parole de Dieu dans la foi à un tel point que Paul dit dans Galates 4:11, « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Vous observez les calendriers, vous observez des fêtes. Puis là, la plupart de ces gens-là ne sont même pas juifs. Hein? Tu sais, c'est comme si tu disais à un Québécois que maintenant, il doit pratiquer la culture chinoise pour être chrétien. Ça serait à peu près la même affaire. Là. C'est comme si tu disais, excuse-moi, je ne comprends pas. Là. Donc, en tout cas, on va y aller plus loin, puis on va comprendre. Paul, il leur rappelle, écoute, je suis apôtre, non des hommes, mais je suis appointé par Christ pour vous. C'est ce que Paul leur dit. Et il n'est pas envoyé par des hommes ou il ne s'est pas appointé lui-même comme les faux docteurs font. Et un faux docteur, lui, s'appointe lui-même. Et Paul, un autre des objectifs, deuxième, exposer les faux docteurs, exposer les comportements de gens qui ont des fausses doctrines. Excellent. Donc, il dit, moi, je suis envoyé par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité. Tous les autres apôtres ont eu leur appel d'être apôtres, envoyés par Jésus-Christ, représentant de Christ pour les gens, quand Jésus était dans son ministère d'humiliation, c'est-à-dire avant sa mort. Paul, Jésus-Christ, lui apparaît pendant 3 ans en Arabie et va l'enseigner lui-même. Il va l'enseigner l'Évangile lui-même. Puis il va même dire dans 2 Corinthiens au chapitre 12 que c'est une excellente révélation qu'il a reçue. Pourquoi? Parce que, contrairement à chacun d'entre nous, Paul, il n'a pas été enseigné par un pasteur ou par d'autres personnes. Il a été enseigné par Jésus-Christ au désert d'Arabie. À un tel point que ça aurait pu y monter à la tête que dans 2 Corinthiens 12, il dit « Il m'a été donné un démon pour me souffleter, pour pas que je m'enorgueillisse à cause de l'excellence des révélations que j'ai reçues. » Donc, Paul, il a eu soit une infirmité physique, soit c'est peut-être ses yeux, c'est peut-être quelque chose dans son corps, mais il a reçu quelque chose qui fait que Dieu, il dit à Dieu tout le temps, « Enlève-les de ma vie, il me semble, je vais être encore plus performant dans le ministère. » Puis Dieu dit, « Non, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Et Paul, quand il a compris ça, il a compris qu'il se serait pété l'orgueil. Il aurait dit devant tout le monde, « Moi, tu sais, moi, j'ai parlé avec Jésus, tu sais, j'ai vu... Je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, mais j'ai vu des choses qui ne sont pas permis de raconter ou pas. Je ne suis pas capable de le dire dans les langages humains. Est-ce qu'il est mort? » Puis, dans 2 Corinthiens 12, il dit, « Je ne sais pas si c'était dans mon corps. Je ne sais pas si c'était hors de mon corps. Y a-t-il une expérience de mort imminente? On ne sait pas. » Mais il est allé au ciel aussi. Puis, il a vu le Père, il a vu le Fils. Ah, c'est intéressant quand même, tout ça. Donc, il dit, « Moi, je suis... apôtre par Jésus-Christ et Dieu, le Père qui l'a ressuscité. Les autres apôtres ont reçu leur ministère quand Jésus était sur la terre. Lui, il l'a reçu quand Jésus-Christ était ressuscité. Et pour être un apôtre, il fallait avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Paul a vu Jésus-Christ ressuscité. Alors, on va voir un petit peu comment Paul, il va prendre quasiment... on va lire du verset 11 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Du verset du chapitre 2. Voyez-vous la grosse portion? C'est presque 2 chapitres sur un livre qui a 6 chapitres. Et on va voir là-dedans, Paul, il montre d'où ce qui arrive. Là. Il n'est pas comme un apôtre qui s'est appointé lui-même. On va voir ça. Et on va te donner, Stéphane, le bâton. Puis tu vas pouvoir nous lire chapitre 1, verset 10 ou 11, là, puis jusqu'à 2:10.
Un, deux. Ça marche? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrage et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours avec lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire.
Merci Stéphane. Merci Gilles. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? Paul, il explique que je n'y arrive pas de nulle part, là. J'étais quelqu'un qui causait le trouble. Puis il dit, j'étais vraiment un trouble-fête. J'étais le plus zélé de ma gang. On rentrait, il divisait des familles chrétiennes littéralement. Il amenait des gens à Jérusalem. Puis il signait le suffrage, c'est-à-dire leur mort. Et donc, il ne dit pas là, mais il dit ailleurs qu'il mettait même son nom en bas là, pour signer, pour autoriser le martyre des chrétiens. Donc, Paul, c'était le pire. Puis il a rencontré le Seigneur, puis il est devenu il défend la foi qu'il s'efforçait de détruire. Puis il est allé voir les apôtres, mais 14 ans, ça a pris. Donc, autrement dit, il n'a pas été envoyé de la part des hommes tout de suite, ni de la part des apôtres. Il n'a pas été chercher des lettres de créance, on peut dire. Mais il était à un moment donné où il s'est dit, « Bien là, il faut que je monte à Jérusalem, puis j'aille me faire connaître aux autres apôtres quand même. » Puis il dit, « Il ne m'imposa rien d'autre que de prendre soin des pauvres. » Donc, il n'y avait pas de suivre la loi de Moïse, puis tout ça. Puis là, il est présentement, là, au moment où ce que Paul est en train d'écrire ça, il se passe de quoi? Il y a les chrétiens, est-ce qu'ils sont obligés de suivre la loi de Moïse? Puis là, il y a un concile qu'on va dire, le concile de Jérusalem, qui est dans Actes chapitre 15. Okay? Et donc, ce n'est pas encore arrivé parce que Paul en parlerait dans cette lettre-là. Donc, c'est sur le point d'arriver ce débat-là où ce qu'ils vont revenir puis ils vont dire, « OK, bien, abstenez-vous des souillures sexuelles. » Prenez soin des. Ils vont donner des commandements, mais il n'y a rien qui va ressembler à suivre la loi de Moïse. Ça, vous avez ça dans Actes 15. Alors, bien intéressant, ici, on voit qu'il n'arrive pas de nulle part. Puis en même temps, même s'il est envoyé par Dieu, puis qu'il a une autorité spirituelle, il ne va pas se. Il dit, je ne veux pas travailler en vain, fait que je vais aller voir les autres apôtres. Puis les autres apôtres, ils ont donné la main d'association. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas un batailleur seul. Tu as été envoyé par Dieu. On voit bien que Dieu t'a donné les païens ou les non-juifs, puis que nous autres, Pierre, ben, on voit vraiment que Pierre, lui, il l'a choisi pour aller vers les juifs, puis toi, pour aller vers les non-juifs. Donc, dans les salutations, on continue dans la salutation, ça commence abruptement, comme je disais, il y a une urgence, une confrontation. Écoutez, dans les passages que je vais nommer, dans 1.7 et dans 4.11, il y a des gens qui vous troublent. Dans le chapitre 3, verset 1, il y a des gens qui vous fascinent ou vous hypnotisent. Dans chapitre 4, verset 17, il y a des gens qui veulent vous détacher de notre ministère. Dans 5.7, il y a des gens qui vous ont fait arrêter de courir. Et au chapitre 1, verset 6, il dit, il y a des gens qui vous détournent. Vous vous êtes détournés pour passer à un autre évangile. Donc, Paul, il dit, je suis dans l'embarras. Il dit au chapitre 4, verset 20, j'aimerais ça dire un autre langage que des reproches, mais la situation demande un parler franc. Et donc, c'est ce qu'on s'attend de cette lettre-là. La lettre a pour but général de sauver les chrétiens qui sont en Galatie, cette jeune église-là qui a quelques années. Et dans le chapitre 1, verset 6, ils risquent de se détourner de Christ. Dans le chapitre 3, verset 2, ils ont tendance à croire que leur vie ne plaît plus au Seigneur, qu'ils devraient être obligés, ils devraient faire des œuvres et que leur foi en Christ est insuffisante pour être sauvés. Donc, il y a un doute qui est là. Hein? Au chapitre 4, verset 17, ils n'ont plus d'affection pour ceux qui lui ont annoncé l'Évangile au départ. Donc, c'est un symptôme. Il est comme en train de leur montrer des symptômes. Regardez que ça ne marche pas, là. Au chapitre, après ça, il dit... il dit, vous avez arrêté d'obéir à celui qui vous appelle. C'est intéressant, hein, Paul, il est envoyé par Jésus-Christ. Il est l'apôtre de Christ. C'est comme si Christ était là, tu sais. Puis il ne dit pas, vous avez arrêté de me suivre. Au chapitre 5, verset 7, il dit, vous avez arrêté d'obéir à celui qui vous appelle, parce que celui qui m'envoie, c'est aussi celui qui vous appelle. Paul, il ne se prend pas pour un autre. Il n'attache pas des gens à lui. Mais il dit, les faux docteurs veulent que vous soyez zélés pour eux. Okay? Et donc, il met des symptômes comme ça pour leur dire, vous avez besoin de réveil, vous avez besoin de revenir à votre premier amour. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Les églises de Galatie. Pour connaître les églises de Galatie, puis là, je vais vous amener dans un petit voyage un petit peu. C'est une acétate, mon message aujourd'hui. Okay, ça avance, ça avance pas. Fait qu'on va, tu auras juste à l'avancer d'un, Juliane. Merci. Je vous suggère de lire Actes 13 et 14 à la maison. Ça va vraiment être un résumé aujourd'hui. Je vous raconte l'histoire un peu de la première rencontre de Paul avec les gens de Galatie. OK. Donc, au début du passage, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui sont là puis qui enseignent dans un collège biblique qui est à Antioche de Syrie, à ne pas confondre avec Antioche de Pisidie. Okay? Donc, il y a Antioche. Lui et Paul, on l'appelait aussi Saul de Tarse. Hein? Donc, il a grandi dans ce coin-là ici. Le désert de l'Arabie est ici à quelque part. Et donc, quand il nous parle qu'il était amené au désert pendant 3 ans, blablabla, c'est dans ce coin-ci que ça se passe. Puis à un moment donné, il disait, hey, venez entendre un gars qui construit la foi qu'il s'est forcé de détruire. Fait que, pfiou, c'est ici qu'il enseigne. Il fait partie des enseignants bibliques d'une école quelconque à Antioche où on forme des disciples. Et là, le texte dit que le Saint-Esprit leur dit de mettre à part Paul et Barnabas pour un ministère qui est mis de côté pour eux. Fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? Acte 13 jusqu'à 14, on va voir ce voyage-là, l'Hongrie. Puis là, il revient ici, puis il donne un rapport à la fin du chapitre 14, il donne un rapport de ce qui s'est passé. Laissez-moi vous donner un petit résumé. Je vais laisser faire l'île de Crète, ici, Chypre. Puis on va s'en aller ici. En fait, on va s'arrêter à Antioche de Pisidie pour commencer. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ils arrivent, puis où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans les synagogues. Les synagogues, c'était une institution qui n'était pas placé là par les Juifs, mais par les Romains. En fait, c'est la culture grecque. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait que tout le monde apprenne à parler le grec, parce qu'on se disait que si tout le monde parle le grec, c'est de même qu'on va conquérir le monde, avec Alexandre le Grand. Et c'est comme ça que ça a marché aussi, que l'Empire grec s'est répandu dans le monde. C'était la langue parlée. Ils ont remis des écoles là. Ce qu'on pourrait dire, c'est une école de grec. Hein? Puis les Juifs, c'est là qu'ils se rassemblaient aussi, pour parler des Écritures. Et donc... il s'était aussi ouvert aux chrétiens. Donc, les chrétiens arrivaient le samedi soir, premier jour de la semaine, au coucher du soleil, le dimanche, et ils venaient faire leur rassemblement-là. Mais Paul, il n'y a pas d'église. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans le rassemblement des Juifs, puis ils écoutent parler de la Torah, des écrits de l'Ancien Testament, dont les écrits de Moïse. Puis, à un moment donné, on leur dit, avez-vous quelque chose à dire? Fait que Paul dit, oui, j'aurais quelque chose à dire. Fait qu'il commence à prêcher avec Barnabas, puis ils ont tellement aimé ça qu'en sortant, ils ont dit, « Hey, tu peux-tu revenir la semaine prochaine? On aimerait en savoir plus. » Puis il y avait des Juifs, il y avait des non-Juifs, puis c'est écrit qu'ils l'ont suivi toute la semaine. Puis là, il y a un mouvement qui s'est créé. Il y a plein de gens qui ont commencé à accepter le Seigneur. C'était merveilleux. On aimait ce qu'il disait. On en redemandait encore pour la semaine d'après. Et on les suit pendant la semaine et on se convertit. Puis les Juifs disent, mais on n'a jamais eu cette popularité-là. C'est quoi cette affaire-là? Je veux dire, ils arrivent, eux autres, ils débarquent, puis nous autres, ça fait des... Fait qu'ils commencent à avoir une jalousie des Juifs. Comme je vous ai dit, on est dans un empire romain ici, à majorité non-juive. Par contre, il y a des Juifs qui sont là et sont jaloux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire la semaine prochaine quand ils vont revenir? Ils vont planifier de l'ostiner devant les autres. Fait qu'ils vont commencer à s'ostiner, puis ça va commencer à faire des débats qui vont mener à rien, qui vont être stériles. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il y a deux résultats qui se passent. C'est que au chapitre 13, 46, c'est écrit que les leaders juifs se jugent indignes de la vie éternelle en ne croyant pas au message de la vie éternelle. Puis ceux qui étaient prédestinés ou ceux qui étaient destinés à croire crurent, mais en fait, dans l'original, c'est ceux qui étaient disposés à croire, ceux qui avaient écouté, qui avaient mis leur foi, ceux qui étaient disposés d'avance à croire, c'est-à-dire qui avaient préparé leur cœur à croire l'Évangile, ces gens-là ont été sauvés. Puis là, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on a commencé à cibler les gens pieux qui vivaient dans ce village-là. Une telle madame ici, une telle madame-là, c'était des femmes pieuses, c'est écrit, qui ont commencé à aller les troubler. Puis là, les gens ont commencé à dire, « Hey, depuis que Paul et Barnabas sont arrivés, ça ne va pas bien, ça. » Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé aussi à aller voir les autorités de la ville puis commencer à monter un dossier contre eux puis préparer et autoriser une persécution. Fait que là, il y a une persécution qui s'est levée et ils ont été obligés de partir. Et Paul, qu'est-ce qu'il est obligé? Il est obligé de chasser. Il a fait ce que Jésus a dit. Il dit, on secoue notre poussière. C'est pas parce qu'il n'y a pas plein de monde qui s'était converti là, mais puisqu'on ne voulait pas de vivre paisiblement avec eux, Jésus avait dit, secouez la poussière de vos pieds, allez juste au prochain village. Et littéralement, ils ont secoué la poussière de leurs pieds, sont allés au prochain village qui était en Pisidie, qui se trouvait être Iconium. Alors, ils arrivent là, et ils commencent à faire la même affaire. Ils parlent dans les synagogues, beaucoup de gens se convertissent, et ceux qui ne croient pas commencent à les troubler. Et donc, Paul, même s'ils sont troublés, c'est écrit qu'ils ont resté beaucoup de temps là. On ne sait pas combien de temps, mais un bout de temps. Et il y a plusieurs miracles qui se sont faits. Il y a des signes qui ont appuyé la prédication et les gens étaient étonnés de ça. Et là, on prépare une lapidation. L'heure, le jour est réglé. On prépare ça. On fait un montage là, pour les coincer dans un coin, puis les lapider, puis les maltraiter. Et ça vient aux oreilles de Paul, qui Paul s'en va à Lystre. Fait que Paul, ça brasse un peu. Il s'en vient à Lystre. Qui a dit que venir à Jésus, c'était facile? Iconium. On l'a fait, on arrive à Lystre, et là, qu'est-ce qui va arriver? Là, à Lystre, il y a beaucoup de païens, il y a un temple, je pense, il y a un temple, je ne me rappelle pas à quelle divinité, là, mais il y a une très forte concentration de païens, des gens qui sont idolâtres, il y a des temples à des dieux, et là, il y a un homme qui est boiteux, probablement de naissance, je pense que c'était de naissance, et puis Paul dit « Lève-toi ». Le gars, il se lève, et le monde sont émerveillés. Fait que, il y a beaucoup de... Là, ils veulent offrir un sacrifice. Puis le prêtre du temple païen, il prépare un taureau, puis il amène la gang. Il dit, hey, faut les adorer, c'est des dieux qui sont descendus parmi nous. Fait que là, Paul dit, hey, arrêtez ça, on est des hommes comme vous autres. Puis vous avez suivi les voies de votre cœur parce que vous ne connaissiez pas la vérité, mais là, on vous l'enseigne, la vérité. Fait qu'il dit, à peine on a réussi à les empêcher de nous offrir un sacrifice. Puis là, qu'est-ce qui... Écoutez bien. Des gens d'Antioche et d'Iconium viennent à Lystre. Ah! C'est qui ces gens-là? Ces gens-là, c'est des gens qui ne croient pas au message de Paul, mais en plus, ils ne sont pas bien d'être tout seuls à ne pas y croire. Ils voudraient qu'il y en ait d'autres avec eux qui n'y croient pas aussi. Hein? Et ils viennent exciter, et c'est écrit, ils excitent la foule contre eux et Paul va être lapidé. Et le texte va dire qu'il était laissé pour mort à la sortie de la ville. Je veux dire, il était mort. Ils l'ont mis dans le dépotoir, dans l'endroit où on met les morts, probablement en dehors de la ville, pour pas que ça pustule. Là, je suis correct que je dis ce mot-là? Il va-tu à la bonne place? OK. Puis Paul, il va dire dans 2 Corinthiens 12 qu'il a été élevé aux cieux. Puis c'est à peu près dans la même période de temps, puis il est élevé aux cieux, puis il a vu des choses qui ne sont pas permises ou capables de dire, et c'est peut-être là qu'il serait mort, puis Jésus-Christ l'aurait ramené à la vie. Il y a peut-être eu une expérience de mort imminente à cet endroit-là. Mais peu importe, les frères se mettent autour, prient pour lui, ploum, il se relève, il s'en va dans la ville. Il rentre à Derbe. Il rentre exactement là où il vient d'être lapidé. Il rentre là, puis le lendemain matin, il se prépare pour partir et retourner à Lystre. Et où est-ce qu'il s'en va? À Iconium. Où est-ce qu'il s'en va? À Antioche. Il retourne là, pourquoi? Pour affermir les frères, faire des disciples, puis réaffermir les gens dans leur nouvelle foi en Jésus-Christ. Et il va avoir des églises qui vont pousser de là parce qu'il dit qu'ils vont nommer des anciens, puis il va continuer à former des disciples. Donc, il nomme des anciens dans les églises, il forme des disciples, puis il s'en retourne. Donc, est-ce qu'il est resté des infirmités lorsqu'il a été frappé? Peut-être, parce que dans Galates 4, il dit, vous savez que c'est à cause d'une infirmité de la chair que j'ai eue pour la première, je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Paul, quand il écrit aux Galates, il dit, j'étais dans une infirmité de ma chair, puis c'est pour ça que je vous ai annoncé l'Évangile. Autrement dit, ils ont pris soin de lui, ils l'ont accueilli comme si c'était un ange de Dieu, ils en ont pris soin, puis c'est comme ça qu'ils ont entendu l'Évangile. Donc, est-ce que c'était le résultat de la lapidation? Peut-être. Puis, il parle des grandes lettres dans lesquelles il écrit. Peut-être qu'il a reçu des roches sur le bord de la tête puis est tombé complètement aveugle à exactement cet endroit-là. On ne sait pas. Alors, c'est intéressant de voir que en retournant ici, entre ici puis là, chapitre 4, versets 21 à 22, dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? On voit le verset suivant. « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, » je pense que ça, c'était à Derbe. Donc, avant de partir de Derbe. « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et en disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Et lui-même, il est poqué. Lui-même, il se fait vilipender à chaque place qu'il passe. Puis il leur dit, écoutez, vous attirez les mêmes adversaires que Christ quand vous annoncez l'Évangile, donc ce ne sera pas facile. Et là, il y a une solidarité qui vient là comme ça entre les Galatiens et l'apôtre Paul, parce qu'ensemble, ils se soudent ensemble dans quelque chose qui ne sera pas facile. Hein? Et à Antioche, en Syrie, fait que là, finalement, le verset que j'allais lire, dans le fond, ce que ça dit finalement, c'est qu'ils sont retournés à Attalia, puis de Attalia, ils sont retournés à Antioche, puis là, ils ont resté un bon bout de temps avec les disciples en Galatie. Ça vous donne-tu une bonne idée un peu de ce qui sont les Galates? Et dans quel contexte Paul a été celui qui a risqué sa vie pour que ces gens-là comprennent que c'est par grâce seulement et non pas par les œuvres de la loi qu'on est sauvés. Verset 3, on retourne dans Galates. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une introduction à peu près comme toutes les lettres de Paul, grâce, paix, amour, tu sais, il y a toujours ça, la charité. Mais pour les Galates, que la grâce soit avec vous, ce n'est pas pareil que quand tu l'enseignes à une autre épître, parce qu'eux autres sont en train de la perdre. Hein? Ils sont en train de la perdre et donc, ils s'éloignent de la grâce de Dieu, ils se déconnectent de la grâce de Dieu, d'une marche qui est pleine du Saint-Esprit avec une marche qui est vide du Saint-Esprit, une marche par les œuvres plutôt qu'une marche par le Saint-Esprit. Et donc, ces chrétiens-là ont subi la persécution, puis ils sont encore là. Paul leur écrit, ils sont encore là. Fait quand le diable, là, il essaye d'attaquer par l'extérieur puis que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer par l'intérieur. En semant des doutes. Et c'est exactement ça qui les fait tomber. Ils sont au fort, ils sont restés, ils ont résisté. L'ennemi vient d'une autre manière parce qu'ils ont arrêté de courir, ils ont arrêté d'obéir, ils se sont détournés de celui qui les avait appelés. Hein? Et donc, Paul, ce qu'il souhaite, c'est que vous soyez remplis de la grâce afin de revivre. C'est quoi d'être rempli de l'Esprit comme au début? Quand tu as accepté le Seigneur. Et donc, il leur souhaite aussi la paix. Puis, ce n'est pas juste la paix, c'est la paix dans une église troublée. Dans une église où, si tu savais tout ce que j'ai entendu contre toi, apôtre Paul, si tu savais tout ce que j'ai entendu contre l'église, et on nous dit qu'on n'a même pas le vrai évangile, si tu savais tout ça, je suis troublé, j'ai besoin de la paix. Et Paul leur dit que la paix soit avec vous, et c'est une paix qui est donnée par la doctrine. Par pensée droite. C'est comme j'ai entendu toutes sortes d'affaires. OK, oui, mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la vérité? C'est ça qui est important. Et donc, la paix, et c'est écrit la paix du Père et du Fils. Et il y a une paix qui vient, qui n'est pas là quand que tu essayes de plaire à Dieu puis de vivre une vie qui plaît à Dieu. Tu ne peux pas l'avoir, cette paix-là, parce que tu ne peux jamais savoir si tu persévères assez et si tu fais assez pour Dieu. Donc, il n'y a jamais cette paix-là, mais celui qui croit à la justification par la grâce seulement, par l'œuvre de Jésus-Christ seulement, il ne se tient pas devant Dieu dans sa justice, il se tient dans la justice d'un autre. Et cette personne peut dire, c'est-tu quoi? Il peut arriver toutes sortes de choses dans ce monde, mais j'ai la paix avec Dieu et j'ai la certitude que je vais aller au ciel avec Dieu. Lapidez-moi sur place, si je meurs, et Paul va le dire, si je meurs dans chapitre 2, verset 20, si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Puis si je meurs, bien, la mort m'est un gain. Fait que la paix, il leur souhaite la grâce, puis il leur souhaite la paix qui vient du Fils. Pas juste celle du Père, qui est le Dieu de paix, mais la paix du Fils. Le sacrifice qui nous donne la paix avec Dieu, c'est Christ qui l'a payé. Et donc, le passage est un descriptif de la suffisance du Fils. Le dernier verset qu'on regarde aujourd'hui, en fait, on va aller jusqu'au verset 5, on est rendu au verset 4. Il s'est donné lui-même, donc que la paix du Père et du Fils vous soit donnée. Puis après ça, il dit, en parlant du Fils, il s'est donné lui-même, verset 4, pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Paul vient mettre le terrain de son épître. Puis il dit, la liberté, là, c'est pas tout ce que tu vas faire pour Dieu, mais c'est tout ce que Dieu a fait par toi. Ça, c'est ta liberté. Il t'a arraché. Il a fait une translation. Dans l'original, c'est une translation d'un point X à un point Y. On va le lire plus loin. Mais les Galates ont commencé à croire que la justice s'obtenait par leur marche chrétienne. Hein? Paul a confessé la fermeté de sa position devant Dieu dans 2:21, il dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi ou par les bonnes œuvres, Christ est mort en vain. » Savez-vous que de croire que Dieu m'accepte sur la base de mes œuvres, c'est une insulte à la croix. Mais ça a l'air tellement pieux. Ça a l'air tellement pieux de dire « Tu sais, oui, Jésus est mort pour moi, mais il faut que je sois une bonne personne. » Ça a l'air tellement pieux. Mais c'est une claque dans la face à la croix. Parce qu'on est en train de dire à Dieu, « Ton œuvre n'était pas suffisante pour me racheter. » Et même, Paul va dire, « Vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification par vos œuvres. Vous êtes déchus comme quelqu'un qui tombe en bas d'un bateau. Vous êtes dans le champ. » Donc, ils ont commencé à croire que la justice s'obtenait par leur marche. Il va dire au chapitre 5, verset 4, « Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Hey, c'est des mots qui sont forts. Toi, tu penses que tu es encore plus en communion parce que Dieu doit être vraiment content de tout ce que tu as fait. Hein? Il doit être encore plus content. Oui, oui, il y a de quoi, mais regarde tout ce que j'ai fait. Caïn, tu sais, il arrive avec son gros plat de fruits. Dieu doit être encore bien plus content que moi, que l'autre. Regarde tout ce que j'ai fait. Il dit, « Vous êtes séparés de Christ. » Ça veut dire que la grâce de Dieu, elle paye toute la dette ou elle accepte, elle ne paye rien du tout. Ça, c'est si je vais au restaurant et que moi, on m'offre de payer pour moi, mais il faut que ce soit tout payé par celui qui paye, puis il faut que si je paye une partie, il faut que je paye tout. C'est comme ça qu'elle marche, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est complètement Christ qui meurt pour toi ou c'est rien du tout. C'est quelque chose. Ça veut dire qu'à Galates, si les gens commençaient à gober le mensonge que c'était la croix plus quelque chose, c'était la fin de cette Église-là. C'est fort, hein? Un autre objectif, parmi les quatre objectifs, c'est de mettre l'emphase sur la grâce seule qui ne fait reposer aucun mérite humain pour nous accepter devant Dieu. Mais il y a de la place pour les œuvres. Mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler pour le moment. Il dit qu'il nous a arrachés du présent siècle le mauvais. Le mot, c'est soutirer, tirer vers soi, délivrer, secourir. Jésus-Christ a fait l'œuvre qui venait nous secourir hein, et nous rendre libres de l'esclavage, esclavage du péché et emprisonnement, incarcéré pour l'éternité, si on peut dire. Et donc, il vient nous délivrer, mais de quoi? De ce présent siècle mauvais. Ici, écoutez-moi bien, il vient nous délivrer d'une éthique de ce monde. Qu'est-ce que tu veux dire? La définition du bien et du mal en dehors de Christ. C'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi. C'est bon pour moi, c'est pas bon pour toi. OK? Dieu vient nous délivrer par Jésus-Christ d'une éthique de ce monde mauvais. Trench, un expert du grec, dit « Toutes les pensées flottantes, les opinions, les maximes, les spéculations, les espoirs, les impulsions, les buts, les aspirations dans tous les temps et dans tout le monde qui est impossible à saisir et définir, mais Trench va dire, mais qui constitue une puissance réelle et efficace, qui constitue l'atmosphère morale et immorale que nous inspirons à chaque instant. » Et Trench va dire que nous finissons inévitablement par exhaler. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que il y a quelque chose dans l'atmosphère qui nous... On n'est pas capable de dire c'est qui est l'auteur de cette pensée-là. D'où c'est que ça vient, ce courant de pensée-là? Les Allemands vont appeler ça le Zeitgeist, c'est la pensée d'un siècle. Et il y a ces pensées-là qui voguent, des pensées dans l'atmosphère qu'on inspire, et qu'inévitablement, on va finir par expirer, c'est-à-dire qu'on va penser comme le monde. Concernant le bien et le mal, concernant la moralité. Et le monde, le mot pour qui nous a arraché de ce monde mauvais, le mot pour monde, c'est un système organisé contre Dieu. Donc, il y a naturellement dans le monde des pensées qui sont contre la grâce de Dieu, qui sont contre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le mot pour mal ou mauvais, ce n'est pas comme un bobo, c'est comme une infection. Donc, c'est un mal qui, tu sais, la personne n'est pas juste corrompue, elle ne sera pas en repos tant qu'il n'y a pas une autre personne qui est corrompue avec elle. C'est une gastro. On est infectieux 48 heures après avoir eu les premiers symptômes, après avoir les derniers symptômes. Ça veut dire quoi? Si vous aimez les autres, vous ne rentrez pas en contact avec eux. La personne est corrompue, ça c'est une affaire. À corrompre d'autres, ça c'est poneros. Le mot pour mal, qui est un mal pas kakos, qui est juste qui se limite à une personne, mais poneros, qui se répand. Et Satan est appelé le malin, et le mot qui est utilisé, c'est poneros. Et donc, le système de pensée que le salut est basé sur des bonnes personnes a atteint toutes les couches de la société. Dans la plupart des systèmes religieux, il y a un système de pointage devant un Dieu insatisfait, où ce qu'il faut que tu fasses quelque chose pour mériter son approbation. Ça l'a infiltré toutes les couches de la société. Les judaïsants font partie de ce monde-là, ils sont infectieux aussi, ils ne sont pas contents d'être, eux autres probablement qui viennent de Jérusalem, ceux qui viennent, là. Il y a ceux-là ici qui ont suivi parce qu'ils étaient frustrés, ils sont allés avec eux, ils se sont rencontrés, les infectieux se rencontrent, ils essaient d'en souiller le plus possible avec eux autres, puis là, ils ont suivi jusqu'ici. Mais le travail, depuis que l'apôtre Paul a écrit à ces gens-là, c'est des gens formés d'ici, là, qui ont été appelés au renfort pour venir. Et non seulement les gens qui sont incrédules ne sont pas satisfaits de ne pas croire, ils doivent avoir le maximum de gens avec eux pour justifier ce qu'ils ne croient pas. Et donc, ils vont dire, bien, je vais te dire pourquoi ça n'a pas de sens, l'Évangile, ou ce que Paul enseigne. Puis là, ils vont embarquer des gens. Ah, là, il y en a un qui va sortir de là. Il va dire, ah, moi, fiu. À une chance, les judaïsants sont venus de Jérusalem. J'étais en train de me faire embarquer. Mon ami, dans l'église, là, l'église de Galate. Ah, depuis que je suis sorti de là, ah, j'ai vraiment mieux pour moi. Ils ne sont pas contents d'être corrompus, il faut qu'ils en corrompent d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin, regardez Galates 6, 12, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent de vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. » Ces gens-là, ils disaient, « Si on est chrétien et qu'on ne se fait pas circoncire, tous les Juifs sont sur notre dos. » Parce qu'on a choisi de faire ce qu'on pense être la vérité, crime, on se fait ramasser. On est tanné. Fait que depuis qu'on s'est fait circoncire, il nous lâche, enfin, on n'a plus de combat. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des infections, des psoriasis, toutes sortes d'affaires, tu sais. Ils sortent du site, ils sortent de l'église, ils sortent du combat spirituel, ils vivent la petite vie, là, tu sais, la petite vie tranquille. Crime, la maladie s'en va. Puis après ça, ils disent, hey, en tout cas, depuis que je suis sorti, moi, de l'église, là, ça va tellement bien. Il y en a d'autres, des gens qui étaient réputés, des gens qui disaient sortir pour les bonnes raisons. Puis on a fait des temps où on s'est honoré mutuellement, on a célébré le plan de Dieu, puis à un moment donné, un an, deux ans, trois ans, ils prenaient des rendez-vous avec les gens, puis ils disaient, « C'est-tu quoi? Je vais te dire, moi, pourquoi que j'ai quitté. » Hein? Quand tu as quitté, tu as dit que tout allait bien, c'est quoi qui se passe? On dirait qu'on a besoin d'avoir des gens qui nous supportent dans les choix qu'on fait. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font le tour du monde pour prouver que les licornes existent, prouver que Dieu n'existe pas? Il y en a qui dédient leur vie. Hein? Il y a des athées notoires là, qui écrivent des livres, ils se mettent riches avec ça, ils font le tour du monde pour prouver que Dieu n'existait pas. Avez-vous vu des gens qui font des livres sur « Je vais vous expliquer pourquoi les licornes n'existent pas. » Puis ils font-tu le tour du monde, ces gens-là? Non, parce que les licornes, ça n'existe pas, tandis que Dieu existe. Et à cause de ça, les gens veulent se donner une bonne conscience que Dieu n'existe pas, fait qu'il va essayer d'avoir le maximum de gens. C'est pas comme ça que le Jardin d'Éden a commencé? Hey, j'ai quitté, moi. Pff. Moi et le tiers des anges, on a quitté, tu sais. Savais-tu que tu peux faire la même affaire? Savais-tu que tu peux faire la même affaire? Eh, hey, voyons donc, tu n'es pas obligé. Ça, c'est bon pour toi. Et là, il y a une définition du bien et du mal qui n'est plus. Pour Satan, c'était déjà réglé. Le bien et le mal, il était déjà tombé d'un Dieu saint. Fait que pour lui, c'était bon de manger de l'arbre de la connaissance. Pour la femme, ça ne l'était pas encore. Elle vit que l'arbre était bon et agréable à la vue. Ce n'est pas par le mal que Satan va s'y prendre, c'est par le bien. Il va réussir à faire, il a essayé de les attaquer, il a essayé de les faire lapider, crime, ça continue l'Église de Galates. Qu'est-ce qu'il va faire? Hey, c'est bon pour toi de retourner à la loi de Moïse. C'est bon pour toi de faire tout ça. Puis en plus, tu ne seras pas persécuté. C'est cool, hein? Tu n'auras plus de combat. Tu retournes à la loi de Moïse, plus de combat. Fait que qu'est-ce que Satan fait? Il vient proposer un bien séparé d'avec Dieu. Il nous a arrachés de ce présent siècle infectieux. Et il est en train de dire à Galates, frime, vous êtes infectés, la gang. Vous êtes infectés. On va faire un bon petit nettoyage de bien et de mal. C'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. Et il nous a fait transplanter, il nous a fait une translation. Donc, le mal ponéros, c'est un mal qui est infectieux. Le meilleur mot en français, ça serait pernicieux. Dieu nous a rachetés d'un monde à l'éthique infectieuse. Le quatrième objectif de l'apôtre Paul, la liberté. Gobez pas n'importe quoi, c'est quoi qui vous rend libre? C'est Christ, point. C'est pas Christ puis les œuvres. Vous êtes libre devant un Dieu saint, dans une justice parfaite, celle de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, point final, barre. C'est réglé. C'est pour la liberté que Dieu vous a franchi. Demeurez ferme et ne laissez-vous pas mettre sous le joug de la servitude, au chapitre 5, verset 1. Et je termine. Il y a des philosophies et des raisonnements qui ont de l'air pieux. Ils ont de l'air vraiment, là, tu fais des mathématiques avec ça, puis ça a de l'air vraiment à faire l'équation. Mais qui sont séparés d'avec Dieu. Vous êtes séparés d'avec Dieu, vous qui tentez d'être des bonnes personnes pour paraître juste devant Dieu. Paul, on dirait, mais là, ça ne marche pas, là. Il me semble que c'est beau, une personne qui veut faire des bonnes œuvres pour être devant Dieu. Vous êtes séparés. Il leur met de l'intelligence dans la tête, il leur met du plomb dans la tête, il leur dit, là, ça va être fini de se laisser emporter à tout vent de tout ce que le monde dit. On va revenir à l'Écriture. Rappelez-vous ce que je vous ai enseigné quand je suis allé à vous voir. C'est au péril de ma vie. J'ai-tu souffert pour rien? Donc, je résume et je termine. C'est écrit dans les mêmes années que Jacques, avec des objectifs très différents de ceux de Jacques. Ce n'est pas une contradiction. C'est quelque chose de complémentaire. Dans son épître, quatre objectifs. Premièrement, défendre son apostolat. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Défendre son apostolat, non pas pour lui-même, Il dit, nous leur avons résisté parce qu'ils venaient épier la liberté que vous aviez en Christ. Pourquoi tu ne t'es pas fait circoncire? Pourquoi tu ne t'es pas fait circoncire? Peux-tu me dire pourquoi tu ne t'es pas fait circoncire? Pourquoi il ne se fait pas circoncire? Bien, c'est parce que c'est un grec. Ben oui, puis. Bien, c'est pas. La circoncision, c'est pour les Juifs. Même les chrétiens juifs doivent se faire circoncire pour hériter des promesses à Abraham, mais pas les Grecs. Il dit, nous leur avons résisté. Car il voulait épier la liberté que vous aviez en Christ. Et on l'a fait à cause de vous. Paul, il dit, j'ai souffert, je me suis tenu. Je dis, non, c'est pas vrai que les non-juifs vont se faire circoncire. C'est pas vrai. Il dit, on a fait ça pour vous. Il y avait un apostolat pour eux autres. Deuxièmement, exposer les comportements des diviseurs. Oh, on devrait s'attendre dans cette série à entendre parler de ça. On n'est pas dans une série de divisions. On n'est pas dans des moments où ce que tout le monde se divise les uns. Mais c'est le temps, d'abord, dans un temps de paix, de parler de guerre. Parce que si c'est arrivé là, puis l'Église avait juste 13 ans, tu t'imagines, 2000 ans plus tard, il faut en parler. Mettre l'emphase sur la grâce seule de Jésus. Dans cette série-là, normalement, on devrait comprendre et saisir encore plus l'œuvre de Jésus-Christ dans la grâce de Dieu. Enseigner sur la liberté, le quatrième, c'est enseigner sur la liberté des croyants, qui peuvent perdre s'ils ne pensent pas avec Dieu, perdre la belle liberté, le message de la grâce de Dieu. Et le remède de Paul, c'est au travers une confrontation en règle, une réprimande envers les lecteurs et un enseignement solide de la grâce de Dieu. Donc, on devrait avoir ça par la grâce de Dieu. Je vais essayer de le rendre comme Paul l'a livré. Et donc, on va développer notre discernement à reconnaître la pensée de ce monde et la pensée de Dieu. Puis même si ça a de l'air beau, la pensée du monde, on va la juger par rapport à la pensée de Dieu. Parce que 1 Corinthiens 2,9 dit, l'homme spirituel juge de tout. La grâce de Dieu, on va essayer de la reconnaître, mais on va aussi voir c'est quoi la contrefaçon de la grâce qui n'est pas la grâce du tout. Puis on va essayer de s'enraciner ensemble dans la parole de Dieu. En résumé, et ça c'est vraiment ma dernière parole, Proverbe 1,7 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Et ça, c'est possible, je pense, grâce à l'Épître aux Galates. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour l'écoute soutenue de mes amis, Seigneur Dieu, qui aiment ta parole. Et je te prie, Seigneur, que tu vas créer un engouement pour ta parole, pour toi, pour ton œuvre, pour ta grâce. Je te prie que tu vas créer aussi un désir chez chacun des frères et sœurs d'être comme ce fils dans le Proverbe qui dit « S'il y en a qui veulent me gagner, mais que je ne me laisse pas gagner facilement à tout ce qui est dit. Mais que je sois enraciné dans ta parole afin d'être ferme dans ma marche avec toi. Merci pour cette épître aux Galates qui est écrit pour nous aussi afin qu'on puisse préserver la pureté de la grâce de Dieu et de ton amour pour nous, manifesté à la croix du Calvaire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui clôture par un court mot de prière, parce que je viens d'en faire un long? Vas-y, Jules.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.